Sens-tu le feu qui nous allume? Ce segment du Cannes Food Club t'est présenté par la microbrasserie La Forge du Malte. La bière forgée par passion.
Avec Kyoto, décroche bien, mais Lira avec un excellent positionnement. Encore une fois, il a laissé un ballon joué loin devant pour Jiménez. Un bon difficile à négocier dans la surface de réparation. Quel arrêt de Sébastien Breza! À bout portant, Breza demande qu'on lève le drapeau. C'est Uriel Antuna qui était complètement seul devant Breza à l'entrée des 6 mètres. Ron Extall sort de ce corps. Par Escobar, s'appuie sur Romero qui est à droite. Un centre au deuxième poteau! 1-0! Uriel Antuna! Romero qui est venu jouer sur la droite. Antuna qui a passé toute la rencontre jusqu'à maintenant. On est à la 44e minute de jeu. Dans le couloir opposé, se retrouve oublié sur la gauche. Et comme ça, le CF Montréal est obligé de marquer 3 buts dans l'espoir de se qualifier pour les demi-finales. Et on a déjà joué, c'est Rudy Camacho! 1-1! Alors que tout le monde regardait Kai Kamara en défense, Joaquin Torres et Georgi Mihailovic jouent rapidement ce corner. On parlait d'une deuxième chance au crédit. Ben, ça passe!
Ça semble peine perdue maintenant pour le CF Montréal, alors que pour Cruz Azul, ce sera de toute évidence une deuxième visite en autant de saisons dans le carré d'as de la Ligue des champions CONCACAF. Et du côté du CF Montréal, ben, c'est peut-être une occasion de commencer à bâtir sur quelque chose, parce que vraiment dans le contenu, et je le répète, dans l'effort, c'était pas loin d'être impeccable.
Meilleur match de la saison de Victor Wanyama, meilleur match de la saison de Kamal Miller, et on pourrait poursuivre ainsi et ainsi.
Johnston
également.
Bon, merci à notre ami Ben Roger pour son montage dynamique. Bonne job, mon Ben. On va aller parler avec Nilton qui est avec nous. Nilton, comment vas-tu?
Bon matin, comment ça va vous autres?
Ben, ça va bien, ça va bien. Écoute, on aurait aimé un résultat un peu différent, mais tu sais, il y a quand même du positif avec ce qui est arrivé hier. C'est juste que le résultat est pas nécessairement celui qu'on recherchait.
C'est sûr que quand on sort du match là, puis on pense, on vit 45 minutes de la deuxième demi, puis on a des regrets parce qu'on se dit merde, t'sais, pourquoi on n'a pas joué comme ça pendant 90 minutes? Pourquoi on n'a pas commencé le match de cette façon-là? Parce que on voyait, il y avait finalement avec des gars en santé, avec un Kyoto, avec un Kai Kamara qui commence un peu à comprendre comment bouger, comment ses coéquipiers aussi commencent à comprendre un peu le lui donner des bons ballons. Mais c'est facile à dire après, mais on voit aussi que la stratégie de Nancy, dans sa tête, il est peut-être pas, il se dit aussi qu'il y a peut-être pas 3 buts dans les jambes de cette équipe-là. Donc, tu commences le match doucement parce que en CONCACAF, on a encore cette règle-là du but à l'extérieur. Donc, on peut comprendre la prudence, peut-être pour certains que c'est un peu excessif, là, cette prudence-là, de pas prendre ce but-là, de retarder le plus possible le but s'il y a un but de Cruz Azul. Parce que de cette façon-là, tu sais, on est capable de bâtir, d'aller chercher un 1-0, peut-être qu'un 2-0 va se qualifier. Mais le défaut de cette stratégie, on le voit, c'est que une fois qu'on retarde le but de Cruz Azul, ben, ça nous laisse pas beaucoup de temps pour marquer ces 3 buts-là qui étaient nécessaires une fois que Cruz Azul a marqué ce but-là. Puis on a vu, là, une équipe qui était bien organisée, mais que malheureusement, de temps en temps, il peut avoir soit des fautes d'inattention, des petites fautes techniques qui finissent par payer cher. Puis après, mais c'est compliqué parce que cette équipe-là, tu sais, Cruz Azul, là, c'est top 4 au Mexique. Ouais. Puis on dit à chaque fois que l'objectif de la MLS, c'est d'accoter la Ligue MX. En tant que championnat, on veut être aussi bon que la Ligue MX. Mais là, tu sais, on demande à un club qui est limité au niveau talent d'aller accoter un top 4 Cruz Azul, c'était une mystère. Dans 5 ans, quand on va revoir sur Wikipédia la performance de Montréal contre Cruz Azul, on va voir match aller Azteca 1-0, match au Stade Olympique 1-1. Ça reste totalement respectable, mais c'est normal que là, on se dit, ah, il y avait quelque chose à jouer. Et même avec les joueurs en place, on aurait pu se qualifier en demi-finale si la tempête parfaite au Stade Olympique là avait eu lieu.
Ouais, puis tu sais, on y croyait avant le match, puis je veux dire, avec ce qu'on voyait également, on y a presque cru, mais tu sais, on a entendu dans le montage également là un arrêt de Breza. Je veux dire, ça a été aussi, tu sais, ça a été important, même si finalement ils l'ont marqué le premier but, reste que ça a quand même limité les dégâts, là.
Oui, puis c'est pas nécessairement la défensive qui me dérange dans ce match-là. Puis même si on a pris des buts, dans les premiers matchs du championnat MLS, c'est pas encore la défense qui me dérange. Moi, c'est le manque de créativité, aussi la transition. On est censé avoir... On joue avec trois défenseurs pour avoir beaucoup plus de punch à l'attaque, pour pouvoir attaquer sur les côtés. On a laissé Lapalainen. On le sait, il est rapide. Est-ce qu'il a perdu cette vitesse depuis sa blessure? Ça reste à voir. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on les lance pas, ces joueurs-là, en pleine vitesse. Les nombres de fois que les joueurs sont obligés de revenir en retrait pour récupérer une balle, les ballons sont souvent envoyés. Il manque une précision pour les lancer. Il faut profiter de la vitesse. Il faut profiter que Lassie est rapide. Il faut profiter d'un Torres sur un côté. Il faut profiter que Kyoto sur le côté gauche, quand il est lancé, il est pas juste rapide, il est physique, il gagne ses duels. Puis on en profite vraiment pas assez. On l'a vu un peu plus en deuxième demi, mais en deuxième demi, pour Cruz Azul, c'était beaucoup plus facile de défendre parce que là, c'est pas grave si tu prends un but, tu restes creux dans ton territoire. Il y a beaucoup moins de terrain à couvrir, beaucoup moins de terrain à courir aussi pour nos attaquants. Et tranquillement, pas vite, on donne beaucoup de qualité avec raison à Olivier Renard. Mais là, la construction de cette équipe-là, elle est bizarre parce que on joue depuis une deuxième saison consécutive. On joue en 3-5-2. Si on veut, ou en 3-4-3, mais bref, l'élément important, c'est les ailiers, c'est des ailiers reculés ou des latéraux un peu plus offensifs. Mais franchement, on n'en a aucun. Il n'y a aucun joueur qui a ce profil-là.
En fait, tu sais, c'est parce qu'on dirait que, tu sais, on a beaucoup parlé en début de saison. OK, quels joueurs vont dans quelle chaise, dans quel rôle, tu sais, puis OK, ils sont versatiles, on peut les positionner d'un côté, de l'autre, tu sais. Mais je trouve que présentement, tu as parlé de Lapalainen. Lapalainen, je veux dire, sa force, c'est quoi? C'est sa vitesse. Puis là, il capitalise pas. Puis on dirait, pour vrai, on dirait qu'il est perdu sur le terrain.
Pour le défendre, il faut dire qu'on le brasse, on le change de position souvent. On le met
tout
à gauche
temps,
parce que,
oui.
Bon, là, tout d'un coup, on le veut qu'il fasse son petit crochet à l'intérieur puis qu'il soit sur son pied droit pour avoir un meilleur angle. Mais là, on dit, il est pas capable de centrer. On a une grosse cible en Camara. Ça serait bien qu'on puisse centrer. On le met à droite, mais on n'en profite pas parce que Lassie à droite avec Torres, ben ils se pilent un peu sur les pieds parce qu'ils font à peu près le même genre d'appel. Ils font à terme, ils font à peu près la même chose, c'est-à-dire ils essayent de centrer. Du côté gauche, là, on vient d'essayer Torkelsson. C'est un défenseur, mais c'est pas un latéral. T'sais. C'est une version. Plus je le vois, plus j'ai l'impression de revoir Raitala. C'est Raitala biz. Donc, si on veut jouer de cette façon-là, il faut avoir des éléments en conséquence. Là, ce qu'on est en train de faire, on a même essayé Koné pendant 15 minutes en deuxième demi, là, sur le côté. Il faut provoquer. Ces joueurs-là doivent être responsables défensivement, mais ils doivent être aussi dangereux offensivement. Et le premier but de Cruz Azul, ben, c'est un peu ce schéma-là qui fait en sorte que Lassie Lapalainen ne flaire pas le danger. Tout le monde se décale un peu à gauche. Miller s'en va dédoubler une couverture sur le côté gauche. Ça fait en sorte que Camacho se tasse de quelques pas à gauche. Même chose pour Alistair, se tasse un peu. Et là, boum, Antonio, il voit l'opportunité. Si on revoit la reprise, on voit un Lassie qui trottine. Il aurait fallu qu'il y ait ce flair-là pour dire on est en fin de première demi. Il faut absolument pas prendre ce but-là. Il faut que je colle Antuna et là, il rate pas cette chance-là.
Non, il rate pas du tout. Puis encore une fois, tu sais, c'est rien qu'on te connaît, mais c'est encore une fois, on a redonné le ballon. Tu sais, à une portion du terrain, on doit pas le faire. Puis depuis le début de la saison, on collectionne ce genre de moments-là aussi.
Oui, et puis je sais pas si c'est avec toi ou c'est avec Max Zanot. Il faut être hyper prudent. Faut être patient. Tu sais, Koné va faire ces passes-là.
Ben oui,
il
c'est
pas
normal.
Le seul. Il y en a plein d'autres qui a fait. Je veux dire, le match d'avant, c'est Wanyama qui a fait cette passe-là et Wanyama joue un solide match. Ces passes-là doivent pas. Il faut pas que des erreurs comme ça, des mauvaises passes deviennent la conversation du match parce que la vraie conversation du match, elle est ailleurs.
Ouais. Là, comment t'as trouvé là-bas? On le disait, là, c'est quoi? Au-dessus de 21 000, finalement?
Ouais,
21 388, tiens, je l'ai devant moi. Spectateur, c'est quand même une belle électricité, là. C'est une belle réponse aussi de la part du stade. Tu sais, au stade olympique, tu te dis, pour un match comme ça, où il y a eu zéro promo, on n'a pas de président, on n'a pas vraiment de... Tu sais, on n'a pas entendu parler tant que ça. Fait que je trouve ça cool quand même qu'il y ait eu au-dessus de 20 000 personnes qui se soient présentées au stade olympique.
Oui, on l'a presque doublé par rapport au premier match. Faut dire que le contexte était différent. Le premier match, on l'a su quelques jours seulement avant que c'était ouvert. Donc, c'est plus difficile à vendre des billets. Mais en face, il y a une équipe qu'on peut vendre. Puis je parle pas de Montréal. Il y a Cruz Azul. C'est là qu'on voit pourquoi la MLS et pourquoi certains clubs en MLS vont chercher des stars en conséquence. Quand Houston va chercher Herrera, un joueur brésilien de la sélection du un joueur mexicain de la sélection, c'est pour aller chercher ce crowd-là. Au stade, je le sais pas, là, tu sais, je me suis promené à la mi-temps. Si on me dit qu'il y avait le tiers des partisans qui étaient pro-mexicains, je serais pas super surpris.
À ce point-là?
À vue d'œil, c'est difficile à dire, là. Mais de mon côté, moi, c'était les chants, là. Azul, azul. Il y a eu les fumigènes. Les fumigènes à la fin du match du côté. Et il y avait des jerseys d'à peu près toutes les équipes mexicaines.
Mexicaines.
On voit que la MLS, elle est difficile pour certains partisans. Puis, tu sais, je peux comprendre, j'étais un ancien Eurosnob.
Oh.
Mais éventuellement, il faut accepter que ton club, là, tu sais, le foot que tu vas voir, c'est pas celui de ton ancien championnat. Tu sais, tu peux l'aimer, mais je veux dire, si ton club, c'est Cruz Azul et tu viens les supporter, fine. J'ai aucun problème avec ça. Mais t'es où les autres matchs? Je veux dire, jusqu'à quel point tu peux pas venir 5 fois dans la saison voir Montréal? Jusqu'à quel point c'est honteux d'avoir un chandail de Montréal? Ça, j'ai beaucoup de misère. C'est pas juste la faute du club, c'est pas juste la faute de la MLS. Il faut que le partisan, à un moment donné, il comprenne que... Oui, exact. C'est correct, là. On peut aimer deux clubs, surtout quand ils se voient pas dans le même championnat. On peut... Les binationaux, on en parle, mais on est plusieurs dans ce contexte-là. T'sais, moi, personnellement, là, je suis beaucoup plus excité présentement par la sélection du Canada. J'ai tellement hâte de les voir à la Coupe du Monde, même si tout le monde sait que je supporte le Portugal. Il va falloir le plus gros projet, le deuxième, parce qu'il y en a quand même un gros projet pour le prochain président du CF. Mais l'autre, c'est vraiment la foule. Comment créer ce sentiment d'appartenance? On a un contexte qui est compliqué depuis 2 ans. Puis je parle pas de la pandémie, je parle plus de la relation club-partisan. Mais quand on voit la foule, on se dit, il y a du potentiel.
Mais tu vois, Nilton, on fait du chemin là, sur ce que tu dis, tu sais. T'as parlé de la sélection nationale. Qu'est-ce qui fait en sorte que là, tout à coup, il y a plein de monde qui se rallie au Canada puis qui commence à triper sur le Canada? C'est quoi?
Ben, c'est les résultats.
C'est les résultats. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu dis, puis c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une ouverture.
Mais il y a aussi les stars, je veux dire.
Mais oui,
oui.
Mais
les résultats, ça vient avec, mais Alphonso Davies, là, c'est pas juste une star sportive. Je veux dire, il est populaire sur Twitch, il vit sur Instagram.
T'as raison.
Il y a quelque chose, tu sais, tu veux... Il faut que tu vendes ton club.
Ici, oui. On ne l'a pas vendu. Depuis que Piatti est parti, il n'y avait personne. On dit. Puis même quand Drogba...
Il faut avoir les personnalités pour...
Ça a été Thierry Henry, c'était pas normal. Puis en même temps, c'est quoi? Il faut que tu mettes un président en place qui va avoir une mise en marché, une approche marketing. Puis après, on pourra travailler main dans la main peut-être avec le côté soccer. Puis ce sera de peut-être éventuellement avoir une vedette. On veut de la jeunesse, on veut des jeunes joueurs qu'on va développer, qu'on va vendre éventuellement. Mais c'est profond le travail qu'il y a à faire ici pour intéresser les gens.
Ce qui est important, oui, le terrain, Olivier Renard doit avoir cette priorité-là, c'est gagner des matchs sur le terrain, mais exclure totalement le hors-terrain et le côté marketing dans une acquisition de joueurs, c'est un problème en MLS. Ouais. Parce qu'il n'y a pas déjà, tu peux pas juste prendre un joueur puis le mettre dans cette équipe-là puis dire il va devenir une star. Non, il faut que ce joueur-là puisse avoir une certaine logique. Tu sais, on a été chanceux là, quand on est arrivé avec Piatti, il était inconnu, il est devenu une star parce qu'il était bon sur le terrain puis parce qu'il était sympathique, parce qu'il parlait français, ainsi de suite. On a essayé de faire la même chose avec Boyan.
Ouais.
Ah, ça fitait moins. Là, présentement, notre star, notre joueur d'épée, c'est Victor Wanyama. Il est hyper efficace sur le terrain. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qu'on utilise zéro puis qui n'est pas vraiment utilisable. Donc, quand je vois cette foule-là, je fais c'est pas vrai que Montréal est pas un marché de foot, de soccer. Il faut juste c'est un marché tellement compliqué parce que c'est pas homogène comme marché.
Je comprends.
C'est tout un défi pour le prochain.
Ouais, la nuance est là puis est super intéressante. T'sais, Montréal est un marché de foot. Faut qu'elle devienne un marché du CF. Mais, tu sais, j'allais dire un marché de l'impact. Fait qu'il y a eu tout ça.
Oui, on en sort
tout. On veut plus en parler du rebrand, mais ça revient quand même. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est une bonne discussion à avoir avec quelques breuvages pétillants, mon Nilton. Toujours un plaisir. Le temps file, Nilton. Continue le bon travail. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce midi, puis on se reparle très bientôt.
Salut, le bon match le week-end.
Yes, salut beaucoup. Salut, Nilton. Nilton George qui était avec nous pour revenir sur ce match nul du CF Montréal hier contre le Cruz Azul. On vous le rappelle, devant plus de 20 000 personnes au Stade Olympique. On fait la pause.